Le féminisme de
Françoise.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Je parle en inclusif aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on va parler de féminisme, c'est parce que j'en parle. Je parle en inclusif tout le temps sur cette antenne. Voilà. Donc vous m'avez peut-être reconnu à ma voix. Moi, c'est William. Et bien aujourd'hui, je ne suis pas dans mon émission, je suis dans celle de Françoise, vous l'avez bien entendu, Françoise Mariotti. Bonjour.
Bonjour, homme.
Homme, très
homme.
Bien.
William, je vous ai reconnu au prénom, William.
Parfait.
Voilà, donc vous m'avez dit qui c'est Françoise Mariotti. Donc, nous faisons une émission sur le féminisme à l'initiative de Nathalie Bouly, que je remercie, sur
Tout
FM+, qui introduit ce thème brûlant sur FM, sur votre radio, notre radio. Et voilà, je suis dans la vie, je suis psychologue, psychosociologue, et je m'occupe des personnes qui sont en souffrance dans un cabinet à Saint-Gilles-du-Fesque, et sinon dans la vie de tous les jours. J'ai un autre métier très fatigant, non rémunéré. Je suis féministe. Voilà.
Oui, et ça, c'est pas de tout repos.
Jamais, non. Non. C'est, mais c'est très intéressant puisqu'on est au cœur de la vie et au cœur du problème. Puisque voilà, les hommes et les femmes, comment ils cohabitent, comment ils se font du bien, comment ils se font du mal. Et aujourd'hui, William, et vous, tu... On ne sait pas encore si on va se tutoyer, si vous voyez, on va voir. En inclusif, je ne sais pas ce que ça donne, mais on a décidé de parler, puisque février, c'est le mois de la Saint-Valentin, eh bien, on va déconstruire la Saint-Valentin.
Exactement.
Et on va déconstruire Valentin, en
voilà,
fait. Voilà,
c'est ça.
On va faire comme Sandrine Rousseau, et nous allons déconstruire. Pourquoi ? Voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, si tu es d'accord.
Complètement, je suis complètement d'accord.
D'accord.
Et parce qu'effectivement, Valentin a beaucoup de travail à faire sur lui.
Voilà.
Pour se déconstruire, c'est ce qu'on va voir tout le long de ces 40 minutes. Donc je sais pas trop par quoi on commence, peut-être.
Je te propose de... voilà. Moi, quand j'ai eu cette idée, je me dis, tiens, pour la Saint-Valentin, on fait un cadeau aux hommes, aux femmes, pardon, et aux hommes aussi, tiens, mon Dieu. on va leur offrir à ces jeunes femmes et à ces femmes un homme déconstruit. Ça sera le cadeau.
Oui.
Et puis, en fait, je suis donc dans le milieu féministe, et on sait que nous, dans le milieu féministe, la Saint-Valentin, on trouve ça tellement hétéronormé, tellement patriarcal, tellement reproducteur de stéréotypes. J'ai vu, alors, commercial, qu'est-ce qu'on peut dire sur une fête ? Toutes les fêtes publiques sont commerciales.
Oui,
il n'y a que la mienne, le 9 mars à Sainte-Françoise, qui ne l'est pas. Et encore, j'aimerais que mes amis m'offrent du champagne. Mais voilà, ce n'est pas la première chose qu'on peut reprocher à la Saint-Valentin. C'est plutôt de trimballer tout un stéréotype sur la femme, la Valentine qui va être choyée, qui va être invitée à acheter des tenues sexy pour le soir où elle va fêter ça avec son chéri. Et puis voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est très hétéronormé. Donc, on commence à déconstruire cette fête. Et quand on déconstruit ça, on déconstruit les comportements.
Complètement.
Et les comportements de Valentin, on va l'appeler comme ça.
Voilà.
Comment vous l'entendez, William, cette idée de déconstruction ?
Alors, la déconstruction, donc, pour moi, c'est...
De l'homme, de la masculinité.
Voilà,
de...
c'est ça. Donc, c'est effectivement déconstruire... pour pouvoir reconstruire par-dessus quelque chose de plus sain, déconstruire eh bien, toute cette culture qui nous a imprégné de qu'est-ce que sont déjà les rôles de genre, qu'est le genre aussi, pourquoi pas, qu'est-ce qu'est la masculinité, qu'est-ce que la féminité aussi, mais surtout... Qu'est-ce qu'est la masculinité et qu'est-ce qu'il y a à enlever de cette masculinité, qu'est-ce qu'il y a à garder de tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est ça la déconstruction, pouvoir enlever, bien comme un mur, comme déconstruire un mur, des briques, les briques pourries, on les jette, on les remplace par des nouvelles briques plus saines et celles qui étaient toujours saines, on les garde bien sûr. Voilà, la déconstruction, c'est pas une destruction.
Voilà. Et comment vous avez compris toute la haine qu'a suscité cette parole de Sandrine Rousseau, puisqu'on part quand même de là. Je précise en parenthèse que j'ai l'idée de déconstruction elle vient de la philosophie. Hein. C'est Heidegger justement qui disait, ben voilà, la philosophie, elle est peut-être, il faut peut-être la réfléchir autrement. Donc, et on va déconstruire pour repartir sur autre chose, pour retravailler les nouvelles réalités. Mais quand ça a été... Il y a d'autres hommes qui ont travaillé à la déconstruction de ça. Bref, ce n'est pas une idée nouvelle. C'est pas une idée nouvelle. Ouais. Mais quand Sandrine Rousseau en a parlé en 2022, ça a été le tollé. J'étais très étonnée de la haine que ça a suscité.
Eh ben, moi, je le comprends surtout comme une peur en soi de la part de ces hommes qui sont... foncièrement contre la déconstruction, contre la remise en question, tout simplement aussi. Et déjà, voilà, ils veulent pas se remettre en question, parce que la remise en question, ça peut être difficile, des fois. Mm-hmm. Ça peut être fatigant. Et aussi, je le vois comme une peur de perdre ses privilèges. On ne veut pas perdre ses privilèges quand on en a généralement, directement ils se sentent attaqués par justement quelqu'un qui viendrait leur dire mais faites des efforts, tout simplement, faites des efforts, et un effort c'est fatigant, c'est dans le mot, enfin voilà, c'est un effort, et donc on n'a pas envie de se fatiguer en soi pour perdre ses privilèges.
Oui, ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas conscients de ce que leur comportement masculin viril peut entraîner dans la société.
Complètement. Il y a peut-être aussi, oui, voilà, un manque de conscience sur ce que ça peut être. Bien que je pense qu'il y en ait qui soient plus ou moins conscients et qui juste se voilent plus ou moins la face par rapport à ces questions-là. Mais oui, il doit y avoir un manque de conscience face à ce qu'entraînent ces comportements et aussi quelque chose de bien ancré depuis, je sais pas, des années, des centaines d'années, des millénaires, quelque chose qui s'appelle la culture. Mmh. Et donc, une culture qu'on a inculquée de génération en génération. Et c'est toujours difficile à déconstruire, ça,
oui,
aussi.
On parle de socialisation, en fait.
Voilà, complètement. Voilà.
Parce que quand on parle de femmes et d'hommes, on peut parler du genre, hein, on verra ce qu'on en fait de ce concept-là, qui est très discuté et discutable.
Oui.
Mais... on parlait il y a deux minutes d'égalité d'identité hors micro, mais il y a une hiérarchie sociale quand même. Être une femme et être un homme, ça n'entraîne pas du tout les mêmes choses, ça n'entraîne pas du tout les mêmes rôles dans la société. On voudrait que ça entraîne les mêmes choses, on voudrait avoir les mêmes droits. On a de plus en plus de droits en tant que femme aujourd'hui, mais on voit combien ils sont fragiles. Hein,
oui.
Quand on parle d'inscrire le droit à la liberté d'IVG dans la Constitution, on voit les résistances au plus haut sommet quand même. Monsieur Larcher, qui change d'avis. Donc voilà, être femme et homme, toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. Et cette socialisation... alors moi, j'ai pas de petits-enfants, j'ai pas vu ce qu'on pouvait offrir à Noël, mais cette socialisation, la hiérarchie, commence dès l'enfance, en fait, dès la naissance. Voilà.
Complètement.
Donc, c'est sûr que les rôles ne sont pas équilibrés, c'est sûr, bon, on va parler stéréotype de genre. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce terme de stéréotype de genre ?
Bien, tout simplement, voilà... associer donc un genre, donc soit les hommes, soit les femmes, à tout un tas tout un tas de rôles en fait dans la société. Donc basiquement, l'homme va travailler souvent dans des métiers durs. Il va travailler à l'usine, il va travailler en construction, et il ramène l'argent à la maison pour manger tout ça, pendant que la femme va s'occuper des enfants, de la maison, de la cuisine. Ça c'est très très caricatural, même si ça existe encore, dans un monde où maintenant les femmes, contrairement il y a pas si longtemps que ça, le siècle dernier, ne pouvaient pas aller forcément vraiment travailler librement, tout ça, sortir de la maison librement plus que ça, même maintenant où c'est acquis, on peut, eh bien, les femmes, généralement, enfin, on le voit dans les chiffres par métier et par aussi orientation en études, les secteurs qui sont très masculinisés, les secteurs qui sont très féminisés, voilà, les hommes, c'est la force brute, comme on l'a entendu tout à l'heure, en off, c'est la force brute, ils doivent conduire des camions, ils doivent construire des choses, et les femmes, elles, eh bien, c'est la douceur, et donc elles vont être plus dans des métiers de service, dans des métiers, comme on appelle maintenant par un anglicisme, je déteste les anglicismes, les métiers du care.
Oui, voilà. Mais c'est un beau mot, le care,
oui,
ça veut dire prendre soin.
C'est vrai, complètement.
Les métiers
mais
du soin,
j'aime
voilà
bien ce mot quand on parle anglais, je n'aime pas les anglicismes.
Ok, il y a le cure et le care.
Voilà,
voyez,
c'est ça.
Dans les écoles, les instituts, pardon, on ne dit plus école d'infirmière, on dit institut en soins,
oui,
infirmiers, on parle encore du cure et du care. Parce que c'est un petit jeu de mots sur juste une voyelle qui change.
Complètement.
Voilà, vous venez de parler des stéréotypes, c'est intéressant.
Mm-hmm.
Alors, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces stéréotypes, besoin de ces normes, parce que oui, la résistance au changement est intéressante. Et Sandrine Rousseau, je crois me rappeler que même des femmes la critiquaient énormément.
Complètement. Oui,
voilà.
Oui, il y a beaucoup. Enfin, moi, je peux le voir, notamment à travers les réseaux sociaux, parce que c'est là où tout est exacerbé.
Oui.
Et là où les gens n'ont pas forcément de peur par l'anonymisation, tout ça, peur de dire ce qu'ils penseraient. Voilà, mais même dans la vie de tous les jours, hein, j'ai pu avoir des discussions avec des femmes qui étaient très très loin d'être féministes et qui revendiquaient en fait le fait que non, le féminisme c'est pas pour elles et c'est,
oui,
contre nature. J'entends souvent ce,
oui,
mot,
oui,
contre nature.
Oui, ah, carrément. Mm. Et oui, la nature de la femme c'est d'être la femme.
Voilà, voilà.
Et
exactement.
Souvent, moi j'entends autour de moi, oh, je suis pas féministe, je suis féminine.
Oui.
Et c'est quoi la différence?
Oui, oui.
Finalement, c'est quoi la différence? C'est comme, voilà, il y a des ces mots sont pesants, je trouve.
Mm-hmm.
Ces mots sont énormément pesants parce qu'ils enferment. Ils enferment, ils excluent. Quand j'ai en face de moi une femme qui me dit, oh, je ne suis pas féministe, hein, je suis plutôt féminine. Oui, mais qu'est-ce que mais je comprends très bien ce que ça veut dire.
Mmh.
Je comprends très bien, ça veut dire je me range plutôt du côté de la négociation, de l'écoute, de la compréhension. Je sais faire ça et c'est presque mon rôle dans la société.
Mmh.
Et ces pauvres hommes, il faut les comprendre parce que quand même, voilà, ils travaillent à l'usine, c'est dur pour eux. On me dit souvent l'argument suprême, mais ils font l'armée, ils nous défendent. Voilà.
Alors, pas tous.
Non.
J'ai jamais fait l'armée.
Non, voilà. Mais voilà, cette histoire de se dire, mais quand même, ils nous protègent, donc on va pas aller les... Arrêter de les embêter, quoi.
Oui, 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 complètement.
Et est-ce qu'ils nous embêtent, à votre avis? Comment ils nous embêtent, entre guillemets, hein?
De ce qui... Oui, le coût pour la société que représentent les hommes. Donc, eh bien, c'est vous qui m'avez conseillé,
oui,
de lire ce livre, Le coût de la virilité.
Oui, de Lucille Pétavin.
Voilà, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire depuis notre dernière rencontre, mais ce sera fait... très prochainement.
Et oui, parce que pourquoi on fait cette émission-là? Parce que la virilité, alors au sens de, moi j'ai un copain qui m'a dit, on parlait de ça, masculinité, virilité, me dit, moi quand je parle du masculin, ça veut dire que j'ai des muscles en tant qu'homme, et quand je parle de virilité, ça veut dire que je bande mes muscles.
Mm-hmm.
Alors j'ai bien aimé qu'il parle de bander.
Oui.
Voilà, voilà, pas la peine d'expliquer. Mais c'est ça, quoi, c'est être un peu plus.
Mm-hmm.
Qu'un homme masculin, c'est devoir faire plus, devoir exacerber ce rôle-là. Et donc Lucille Pétavin, il y a 2 ans, alors le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Eh bien, le chiffre est astronomique. Si les hommes étaient socialisés comme les femmes, donc à la... comment dire, faire attention à la brutalité, faire attention à l'autre, en prendre soin. Moi, je trouve ça très beau, le mot de prendre soin.
Oui.
Eh bien, ça se chiffre en milliards d'euros par an.
Oui.
Et c'est 96 milliards d'euros. Et elle trouve ce chiffre en additionnant chaque année le coût de la violence masculine. Mmh. Et de la violence ou des dysfonctionnements de la virilité, parce que voilà, elle part du chiffre astronomique. Ce sont très, 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 très majoritairement des hommes qui sont en prison. Mmh. 99% ce sont des hommes qui commettent des viols. Violence sexuelle, 97%. Alors, c'est pas 97% des hommes, hein. C'est par rapport au pourcentage d'hommes et des femmes. Quand il y a des hommes et des femmes qui commettent des viols, 86% des hommes font des homicides volontaires, 99% des hommes violent, parmi la proportion de viols. Les injures, les menaces, les vols avec armes, les vols sans violence, les cambriolages, 91% sont des hommes. Voilà l'étalage, 65%. Dans le tableau qu'elle fait, si vous avez le bouquin, c'est à la page 108, ça peut servir. Il n'y a pas une seule catégorie d'infraction où le pourcentage des femmes est plus élevé.
Oui, oui.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce constat ? Est-ce que ça n'incite pas au changement de se dire ça ?
Eh bien, complètement. Complètement. Ça veut dire qu'il y a un problème donc, dans la vision... dans la vision de qu'est-ce qu'être un homme,
voilà.
Et surtout dans la vision des hommes, de qu'est-ce qu'ils doivent être, qu'est-ce qu'est leur identité
oui.
masculine.
Voilà.
Et donc effectivement, ça fait effectivement énormément de mal à la société, énormément de mal aux femmes, hein, quand on parle voilà de violences sexistes, sexuelles,
bah oui,
voilà de viols, de violences conjugales. Mais aussi, ça fait justement ce rôle-là qui nous est attribué culturellement aux hommes. Ça nous fait mal aussi, à nous, les hommes. Mm-hmm. Moi, je peux parler d'expérience. Hein.
Oui,
j'ai grandi... voilà, moi, j'ai eu des parents, quand même, qui étaient assez... je vois, hein, par rapport à leur génération, assez avant-gardistes aussi sur toutes ces questions-là. Ils m'ont toujours... inculquer voilà le respect vis-à-vis aussi justement de mes homologues d'un autre genre d'un autre sexe. Ma mère elle a été beaucoup traumatisée dans son enfance par les coups des différents conjoints de ma grand-mère. À tel point que c'est parti des fois la police qui doit intervenir tout ça. Donc elle m'a toujours inculqué ça aussi. Et donc, moi, j'avais aussi une façon de voir ma vie, mes loisirs, mes choses comme ça. C'est pas forcément les mêmes centres d'intérêt que les autres garçons avaient et voulaient que j'aie pour pouvoir jouer avec eux. Donc... par exemple, jouer au foot, bon, c'était sympa des fois, mais j'avais pas envie de jouer au foot tout le temps. Des fois, j'avais envie de faire autre chose. Justement, des fois, j'allais beaucoup jouer avec les filles. Parce que c'était plus calme. C'était plus calme, il y avait moins de cris, il y avait moins de bagarres, il y avait moins de tout ça. J'avais pas envie de me bagarrer souvent. Très longtemps, je n'avais pas conscience que déjà j'avais cette capacité-là à me défendre.
Quand vous l'autorisez, cette capacité-là.
Exactement.
Quand vous l'autorisez à la développer, en fait.
Exactement.
Aussi.
Parce que moi, mes parents, justement, voilà, m'ont toujours inculqué. La violence, c'était non. Et on ne règle pas les choses par la violence. Et du coup, en face, quand il y a un garçon qui arrive et qui, lui, est ultra violent et veut vous taper, vous faites taper. Parce que vous n'arrivez pas, vous ne savez pas que vous pouvez vous défendre. Ça, je l'ai compris beaucoup plus tard.
Oui.
En fait, je l'ai compris beaucoup plus tard. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un collage féministe qu'on voit beaucoup. Protéger vos filles qui est barrée.
Ah oui.
Vos garçons.
Éduquer vos garçons.
Et il y a un biais quand même là-dedans. C'est qu'on ne pourra pas éduquer tous les garçons. Hein. Il y aura toujours, je pense, des déviants. Et donc, les filles aussi, je pense, au même titre que moi, j'ai appris ça dans ma jeunesse, les filles aussi doivent intégrer qu'elles ont une capacité de se défendre. C'est pas forcément les êtres faibles.
Je suis d'accord,
voilà.
Je suis d'accord. Simplement, si on doit travailler à se défendre, ça veut dire que rien ne change en face.
Non, alors c'est justement quelque chose qui accompagne, je pense.
D'accord,
voilà.
Oui,
c'est
oui.
Deux
oui.
choses qui doivent se faire en même temps.
Oui, cette possibilité voilà. qu'on a, au lieu de se dire, oh là là, j'ai peur,
voilà.
c'est effacer la peur déjà.
Exactement.
Et pourtant, elles ont raison, elles n'ont pas tort d'avoir peur.
Elles n'ont pas tort d'avoir voilà. peur, mais et puis la peur, en soi, ce n'est pas forcément effacer la peur. La peur, elle est utile. Moi, j'ai peur quand quelqu'un m'agresse en face, mais qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Et comment on va réagir face à cette situation
voilà.
qui nous fait peur? Est-ce qu'on va être démuni ou est-ce qu'on va prendre aussi les choses en main? Prendre les choses en main, ça peut être la fuite aussi. Hein.
Oui, c'est oui, j'étais en train d'y penser.
Tout le temps, l'attaque.
S'entraîner à courir plutôt
voilà.
que se muscler.
Exactement.
Mais voyez que là, vous parlez d'une co-construction. Voilà.
Oui.
C'est sûr
exactement.
Que déconstruire la virilité toxique, c'est travailler à deux. C'est nous vous aider à prendre conscience.
Oui.
Éternelles éducatrices, les femmes. Hein, mais après tout, on a intérêt à le faire pour nous aussi. Et puis vous, nous dire, écoutez, vos comportements, on va, si vous êtes. Si vous vous défendez, ok, c'est ok pour nous aussi.
Oui, c'est ça, oui. Et juste avant la petite pause musicale, je rajouterai qu'on a plein de points sensibles, nous, les hommes, qu'on peut viser en premier. C'est toujours se rappeler de ça en cas d'agression.
Et c'est... Tiens, quel drôle de conseil.
Ah, mais je donne ce conseil parce que je l'applique.
Oh mon Dieu, il y a un homme violent chez un femme plus.
Oh,
William
non.
donne des coups de pied.
C'est toujours de la légitime défense.
D'accord. Il vaut mieux t'en rire des fois.
C'est ça.
Eh bien, on va entendre quelqu'un qui va déconstruire justement la virilité, je crois.
Voilà,
j'annonce Eddy de Préto.
Eh bien, on peut annoncer Eddy de Préto.
Nous allons écouter Kid sur FM+, Eddy de Préto.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, c'est fou. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tout sens des fils à terre et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
On reprend ? On va reprendre William, parce qu'on a fini sur des possibles actions à faire ensemble. Alors à faire ensemble, on va essayer de s'entendre, femmes et hommes, pour ça. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a des hommes qui ont déjà travaillé à ça. Je pense au livre du compagnon féministe radical d'Andrea Dworkin, qui est une célèbre figure féministe connue, qui est féministe radicale elle-même. Et son compagnon s'appelait John Stoltenberg, et il a écrit « Refuser d'être un homme ». Il a écrit ça dans les années 80, et ce bouquin-là, alors je vous conseille d'écouter un podcast qui existe, vous tapez « John Stoltenberg, refuser d'être un homme podcast ». Je l'aurais écouté ce matin chez moi avant de venir, et c'est tout un manuel en fait, c'est pose un constat. Quels sont les domaines où on doit refuser d'être un homme ? Mais refuser d'être un homme, ça veut dire qu'on considère que, comme vous disiez au début, c'est un construit.
Oui.
Il n'y a pas question de c'est dans les gènes ou dans la nature. C'est un construit, donc on peut déconstruire. Et on peut déconstruire en refusant d'être l'homme qui est toxique. Et les domaines où ça se voit le plus, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu généralement, mais c'est dans la sexualité, par exemple.
Oui.
John Stoltenberg, déjà, il disait que comment peut-on créer du désir dans la sexualité en avilissant les femmes, en prônant la culture du viol. Ça, c'était la première émission que j'ai faite avec Nathalie. Et là, il y a un gros boulot à faire sur la pornographie, sur la prostitution, sur le fait que les hommes profitent comme ça du corps des femmes, même s'il y a des lois, mais ces lois ne sont pas appliquées. Donc voilà, premier domaine d'action. La sexualité. Donc on est là dans qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?
Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? C'est une vaste question, mais pour commencer à y répondre, donc déjà, je pense que la parole des concernées, donc des femmes, est importante, la plus importante. Il faut écouter ce qu'elles ont à dire. Mais aussi, justement, et des fois là ça revient un petit peu dans cette société qui est patriarcale et qui est faite plus pour les hommes, it's a man's world, comme disait James Brown. Et des fois, parfois, ça passe mieux quand c'est un autre homme qui le dit. Et donc les hommes qui sont déconstruits, plus ou moins, qui sont féministes ou alliés,
alors voilà,
peuvent justement prendre la parole sans invisibiliser la parole, bien sûr, des premières concernées. Donc voilà, mais aller faire un petit peu de pédagogie.
Est-ce que vous êtes nombreux ?
On est un certain nombre, on n'est pas assez nombreux. Des fois, on a l'impression d'être tout seul.
Vous avez cette impression-là, vous ?
Parfois, ça dépend. Ça dépend pas forcément dans ma vie réelle, mais sur ma vie sur Internet, par exemple.
Oui.
Des fois, on peut se sentir seul. Ça dépend des endroits sur Internet. Il y a des endroits où, bon, il y aura un certain nombre de personnes qui vont venir nous aider, en fait, dans cette pédagogie, et donc qui sont complètement de notre côté. Et des fois, on se retrouve complètement seul face à une horde d'incels, hein, comme
ah
j'aime
oui,
à les appeler.
Ah oui, qu'est-ce que c'est, les incels ?
Alors, les incels, c'est déjà, le mot, c'est la contraction de involuntary et celibate, donc le célibat involontaire.
Le célibat involontaire, d'accord.
Et donc, c'est des gens qui se...
Des hommes, pardon. D'accord.
Des hommes. Mais il y a le version femcel maintenant aussi, qui est complètement anecdotique.
D'accord,
mais,
bon, elles ne sont pas aussi violentes, j'imagine.
Dans leurs propos, si, mais c'est moins violent parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup moins. Donc, on le voit beaucoup moins. Et il n'y a jamais eu d'attentat, par exemple.
D'accord.
Il y a eu des attentats incels, hein, aux États-Unis ou au Canada.
On voulait dire que quand des hommes qui se veulent alliés, être alliés, parce que vous avez vous-même constaté que si un homme parle de féminisme et d'égalité à d'autres hommes, ça va peut-être être mieux écouté d'homme à homme.
Exactement.
Exactement. D'homme à homme, c'est un mot, ça. De femme à femme, ça n'existe pas comme terme. On peut le dire, mais ça n'a pas la même valeur.
Exactement.
Donc d'homme à homme, ça va mieux passer, mais vous vous heurtez quand même à des groupes de masculinistes.
Voilà.
On peut dire que ce sont des masculinistes.
Complètement. Ce sont des masculinistes. Voilà, c'est une frange des masculinistes. Donc tous les masculinistes ne sont pas incels, parce qu'il y a des masculinistes qui ont réussi à se trouver une femme. Oui. Mais donc voilà,
ou un homme d'ailleurs.
c'est une frange qui revendique le fait que s'ils sont célibataires et que c'est involontaire, et ben c'est forcément la faute des féministes, mais aussi de toutes les femmes en fait, parce que les femmes détesteraient les hommes dans leur entièreté, les femmes ne. Et puis surtout que les femmes, au final, seraient là pour ça. Ce serait leur rôle, parce qu'elles doivent être mères, par exemple, et elles doivent être une bonne femme, justement, et s'occuper d'eux, qui rentrent fatiguées du boulot et qu'ils n'ont absolument pas envie de faire la vaisselle ou la soupe le soir. Donc, c'est Bobonne qui l'a fait. Ça, c'est caricatural, mais en fait, il y a beaucoup trop de gens qui pensent encore comme ça, et pas seulement des vieux de la vieille, comme on dit.
Pardonnez-moi de vous couper ou de prendre la parole un peu vite parce que je vois que le temps passe. Pourquoi j'ai voulu faire cette émission aussi avec vous? Parce qu'il y a eu un rapport du Haut Conseil à l'égalité en France qui est paru mi-janvier, qui montre que le sexisme progresse.
Oui.
Et quand on me parle, moi, en me disant oui, oh, mais c'est bon, c'est une question de génération, ça c'était les hommes plus âgés, maintenant les jeunes. Et puis ce rapport-là montre que le sexisme progresse chez la tranche des garçons de 25-34 ans.
Complètement.
Et pas seulement chez les garçons, chez les filles aussi, qui sont en train de revendiquer des rôles plus traditionnels, exactement ce que vous décriviez, qui n'ont pas remis en question totalement les normes de la féminité par rapport à la maternité. Et ça, c'est inquiétant parce que voilà, on évoquait la fatigue féministe au début, et c'est pas mal que vous preniez aussi le relais, vous les hommes en cours de déconstruction ou en totale déconstruction, tant mieux si ça arrive, mais c'est bien que vous preniez le relais aussi, quoi.
Oui. Mais je pense que justement, on se doit aussi de faire ça parce que si.
Quel est l'intérêt d'un homme à déconstruire sa virilité toxique?
Bien déjà, je pense être peut-être si ça peut convaincre des gens de manière totalement égoïste pour soi. Premièrement, c'est beaucoup moins de stress. Beaucoup moins de stress de ne pas tout le temps penser est-ce que là je suis viril, est-ce que là comment les autres hommes vont me percevoir, tout ça. Secondement, pour le bien commun, on va dire, donc on en a parlé hein, du coût du coût de la virilité dans la société, et donc pour le bien commun, donc celui des femmes aussi qui subissent encore beaucoup trop de violences sexistes. Enfin, on entend parler tous les ans hein, le nombre de féminicides, hein, ce mot qui est apparu il n'y a pas si longtemps dans le débat public au final. Puis le nombre de d'actes qui envers des femmes qui sont là, donc pour un bien commun tout simplement et pour une société meilleure, je dirais. Et se déconstruire, ça veut pas dire. J'entends beaucoup de gens dire non, mais le féminisme, en fait, elles veulent pas l'égalité, elles veulent prendre notre rôle en soi, elles veulent la domination des hommes. C'est complètement faux.
Il y a beaucoup d'idées reçues sur le féminisme, franchement. Ça, c'est une façon de dire oui, de toute façon, si c'est pour prendre notre place, ça sert à rien.
Exactement.
Donc, déjà, c'est plus la peine de parler quand on dit ça. C'est déjà pas comprendre. Parce que le féminisme, j'en discutais moi hier avec des amis, et c'est vrai qu'il faut. Il y a une historique d'un féminisme. Il y a des écrits qui sont produits par les hommes et par les femmes. Vous parliez de stress à être un homme. Et moi, je sais qu'en consultation, je ne suis pas sexologue, mais j'ai entendu des hommes quelquefois me parler de leurs difficultés, de leur impuissance.
Complètement.
Et je leur passais le petit bouquin d'un homme qui s'appelle Martin Page, qui est un livre récent, 2020, qui s'appelle « Au-delà de la pénétration ». Hein, et je trouve que ce bouquin, il dédouane aussi de cette pression-là à exercer la virilité jusque-là, et que ça peut être un soulagement d'abord, parce que toutes les femmes n'apprécient pas la pénétration, et la majorité, je crois. Mm-hmm. Ça se dit de plus en plus, mm-hmm. écoutons les concernés, et parce que ça enlèverait une sacrée pression aux hommes.
Mais complètement.
Après ils sont avantagés, parce que socialement, vous parliez, William, d'être un petit garçon déconstruit par rapport à un groupe de ceux qui ne le sont pas. Et peut-être que mes fils ont été dans ce groupe-là en face de vous, parce que moi, le déconstruit, j'avais un mari militaire, donc c'était mm-hmm. difficile. Mais oui, ça ferait du bien à tout le monde. Mais pourquoi ça n'arrive pas ?
Eh bien,
c'était un cri du cœur, là. Pourquoi c'est si difficile ?
Oui, eh bien, je me pose la même question. Je me pose la même question, justement, depuis longtemps.
Il y a des intérêts économiques et politiques, quand même.
Je pense que, voilà, il doit y avoir beaucoup d'intérêts économiques, politiques, des intérêts de privilège en soi. Hein. Et là, j'avais noté ce mot intersectionnalité qui revient beaucoup.
Allez-y.
Ces privilèges-là, en fait, on peut le voir, je pense, un petit peu dans toutes les luttes. Dans la lutte, justement, de classes, on va dire, eh bien, mm-hmm. les classes supérieures ne veulent pas perdre leurs privilèges. Dans la lutte antiraciste, il y aurait, voilà, cette dimension-là.
C'est ça,
aussi.
C'est hiérarchie à garder.
Voilà, une hiérarchie mm-hmm. à garder, parce que nous, on est en haut. Et à quel intérêt on a à descendre un petit peu de trois étages, vu qu'on est déjà au sommet. Donc, c'est ça aussi qui rend la chose difficile, et faire comprendre que ces privilèges-là, au final, est-ce qu'ils en sont vraiment pour nous, si on y réfléchit bien, parce que ça nous met tout un tas de contraintes aussi. Et est-ce que des privilèges, enfin tout simplement, est-ce qu'on peut déconstruire l'idée aussi qu'il faut des privilèges dans la vie, ou en tout cas.
Oui, on revient à l'égalité quand même.
Exactement.
On revient à des valeurs.
Exactement. Voilà, et donc, pour en revenir un petit peu au stress que ça cause, effectivement, mm-hmm. je pense qu'il y a tout un tas de représentations, pour en revenir aussi au porno, tas de représentations, parce qu'il y a effectivement le stress de l'impuissance, mm-hmm. mais il y a aussi une question qui revient énormément, c'est la taille. La taille ne compte pas. Pas forcément, ça dépend ce que voilà. Et écoutez, les femmes, elles vous diront que la taille, ça compte pas tant que ça.
Bah oui. Vous parlez de la taille du pénis des hommes,
ouais,
mais c'est la forme de nos corps en fait, puisque les femmes sont beaucoup. Nous, c'est nos fesses, c'est nos seins.
Exactement.
La taille du clitoris, n'en parlons pas. Il mm-hmm. y en a tellement qui savent pas où c'est que mm-hmm. et à quoi ça sert que. Peu importe sa taille aussi, de toute façon, pour la sensibilité et le plaisir, effectivement.
Complètement.
Oui, on déconstruit les normes, en fait.
Exactement.
Alors, est-ce que c'est pour plus de confort ? Pourquoi il faudrait gagner quelque chose ? J'ai eu cette discussion avec un ami psychologue allié féministe qui disait, il faut expliquer aux hommes qu'ils vont y gagner.
Oui.
Mais pourquoi on va leur dire ? Est-ce qu'il faut dire, soyez antiraciste parce que vous allez y gagner ?
Eh bien, alors moi je suis pas pour, effectivement, foncièrement, je suis pas pour dire ça. Après, de façon stratégique,
voilà, d'accord.
C'est peut-être plus du côté stratégique. Effectivement,
oui.
Si on leur dit, vous allez pas y gagner grand chose, c'est juste, vous allez justement, c'est plus les femmes qui vont y gagner. Ah, bah pourquoi on ferait ça alors si j'y gagne rien ? Alors que, je pense que l'homme est égoïste aussi. Si on lui dit, mais regarde, tu donnes ça, mais tu récupères ça derrière, tu récupères ton investissement derrière, ton intérêt, eh bien là, ça va les inciter peut-être un peu plus à se remettre en question. Mais effectivement, c'est pas un beau constat de savoir que ça doit passer par là et qu'ils vont pas le faire de bonne foi, en fait.
Oui. J'ai organisé en 2005 à Montpellier, j'en ai fait 100, des cafés du genre. Mm-hmm. Et les cafés du genre, le premier thème que j'ai pris, c'était « Je préfère cet homme ». Alors, dans la Gazette, ils ont publié « Je préfère les hommes ». C'était faux. Mmh. Et justement, on parlait déjà de l'homme nouveau à l'époque. Et donc, c'était en 2005, il y a presque 20 ans.
Mmh.
Et aujourd'hui, on commence à en parler un peu plus. Mais on en a marre de parler, je crois.
Eh bien, c'est pas qu'on en a marre. Moi, je pourrais faire ça toute la nuit.
Oui,
je crois que Adrien a des heures de travail aussi.
D'accord. J'ai une conclusion. Oui. J'ai une conclusion que j'emprunte à une autrice qui a publié un livre sur l'inceste qui s'appelait « Puisqu'on a marché sur la Lune » d'Alexa Fauché. Et la conclusion, c'était « Puisqu'on a marché sur la Lune, pourquoi on n'arriverait pas à déconstruire la violence des hommes ?»
Eh bien,
voilà.
Complètement. Et c'est sur cette question qu'on va... terminé. Merci Françoise Mariotti.
Merci William.
Pour cette belle discussion. Merci Adrien d'avoir tout enregistré, de nous avoir lancé ce titre, très beau titre d'Edith de Préto, donc Kid, que vous avez entendu en milieu d'émission. Et bien.
Et au mois prochain.
Au mois prochain avec Françoise, voilà, dans le féminisme de Françoise.